France Inter,
franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui de m'aider à Viktor Yushchenko, une histoire politique du poison. On ne distinguait plus ses yeux, la forme de son front, ni de son beau visage. Les chairs coulaient des os, comme de la résine sous les dents invisibles du poison. Euripide, Médée. Mille ans d'histoire. Il y a 4 ans, on s'en souvient, sur toutes les télévisions du monde, on pouvait voir le visage déformé de Viktor Yushchenko, victime d'un empoisonnement à la dioxine imputé au service secret ukrainien. Des images qui nous faisaient remonter très loin dans le passé, à l'époque où l'affaire des poisons avait ébranlé le règne de Louis XIV, au temps de la Rome des Borgia, ou plus loin encore, jusque dans l'Antiquité grecque, quand la magicienne Médée s'était débarrassée d'une rivale en lui faisant porter une tunique empoisonnée. On ne distinguait plus ses yeux ni la forme de son beau visage, les chairs coulaient des os comme de la résine sous les dents invisibles du poison. En écrivant ceci au IVe siècle avant notre ère, Euripide ne savait pas que 2400 ans plus tard, c'est presque dans les mêmes termes que sur toutes les radios et toutes les télévisions du monde, les journalistes décriraient le visage de Viktor Yushchenko. France Inter, Philippe Habitboul, le 11 décembre 2004.
France Inter. On a découvert son visage dans tous les magazines il y a quelques mois encore. Il avait le profil d'un jeune premier. Depuis, eh bien, les choses se sont bien détériorées. Aujourd'hui, son visage est ravagé comme s'il avait subi une agression au vitriol. Qu'est-il donc arrivé à Viktor Yushchenko? Eh bien, ce soir, les médecins autrichiens sont formels. Après avoir examiné le candidat libéral à l'élection présidentielle en Ukraine, ils affirment que Yushchenko a bel et bien été victime d'un empoisonnement à la dioxine, Bruno Caden.
Viktor Yushchenko a subi des analyses pendant 24 heures. Les médecins ont examiné tous ses organes, y compris son squelette. Ils ont fait appel à la médecine nucléaire et au service de 2 des laboratoires les plus en pointe en Europe occidentale. Ils ont fondé leur diagnostic sur des observations cliniques et ce diagnostic fait froid dans le dos. Viktor Yushchenko a été empoisonné à la dioxine avec une dose 1000 fois supérieure à la norme. Les médecins autrichiens expliquent que le poison aurait pu facilement être administré dans des aliments comme une soupe par exemple. La veille de tomber malade, Viktor Yushchenko avait mangé avec de hauts responsables des services secret ukrainien.
Franck Collard, bonjour.
Bonjour.
C'était l'empoisonnement de Viktor Yushchenko, qui était candidat à l'époque à la présidence de l'Ukraine et qui l'est devenu malgré cet empoisonnement. Alors, un des derniers rebondissements de la très longue histoire politique du poison que vous avez écrite aux éditions du Seuil, un livre dans lequel vous montrez qu'au fond, quelles que soient les époques, eh bien, l'empoisonnement, l'usage du poison à des fins politiques répond toujours aux mêmes motivations, hein, se débarrasser d'un rival, suscite les mêmes peurs, on s'en doute, ou encore les mêmes fantasmes, les mêmes réprobations, et se produit presque toujours dans le même contexte, c'est-à-dire celui d'un régime autoritaire, que ce soit une monarchie, un régime totalitaire.
C'est ça, oui, dans un régime qu'on qualifiera de tyrannique, hein, quelle que soit la forme que prend sa gestion. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu montrer qu'il existait, sinon un éternel du poison, en tout cas des permanences, dans les structures mentales en particulier, dans le discours qui est fait à propos de cette arme particulière, sans cacher en même temps quelques évolutions qui sont dues, par exemple, aux techniques de fabrication des poisons qui n'ont rien à voir avec celles de l'Antiquité ou du Moyen-Âge.
Alors, un poison qui suscite aussi des fantasmes, il y a des rumeurs d'empoisonnement, même si elles ne sont pas fondées. Un des plus anciens et des plus célèbres empoisonnés, entre guillemets, de l'histoire, s'il l'a été, c'était Alexandre le Grand.
Oui, Alexandre le Grand, que je considère comme une sorte d'archétype, de modèle, hein, du prince empoisonné et qui est censé avoir péri du poison de gens qui étaient chargés de gouverner avec lui en 323 et qui, en réalité, n'a jamais été empoisonné. On le sait avec les éphémérides, hein, qui tenaient le journal de ces derniers mois, de ces derniers jours. jour, mais dont on a dit assez rapidement après, 4 ou 5 ans après, qu'il avait été victime du poison, une sorte de poison de jalousie, de gens qui enviaient son pouvoir, peut-être aussi que sa mère ou sa femme étaient dans l'affaire. Et donc ça a constitué une sorte de modèle qui se prolonge pratiquement jusqu'au XVIIe siècle.
Dès qu'un homme meurt jeune, surtout un homme de son envergure, dans des circonstances un peu énigmatiques, quand on n'est pas capable d'expliquer la maladie dont il est mort, on pense évidemment au poison. Un poison qui vient, dans l'Antiquité en tout cas, on le disait, toujours d'Orient.
Oui, un poison qui vient d'Orient, et c'est très curieux quand ce sont des orientaux eux-mêmes, comme les Grecs qui le disent, il y a toujours plus oriental que soi, et le poison, c'est ce qui est utilisé par les mages de Perse, c'est ce qui est utilisé aussi en Égypte. En revanche, les Grecs, les Athéniens, se vantent de ne jamais recourir à une arme qui est déjà considérée comme passablement abominable.
Alors, en revanche, elle est utilisée après la Grèce, elle est utilisée dans l'Empire romain, à l'époque où Néron avait tout en tenté plutôt d'empoisonner sa mère Agrippine, si l'on en croit du moins cette parodie de Péplum des années 1950, avec Vittorio De Sica dans le rôle de Sénèque, Brigitte Bardot dans celui de Poppée, et un irrésistible Alberto Sordi dans le rôle de Néron.
Cuisse de crapaud, queue de cobra, dents de dragon, cadavre de porc, cadavre de mort, encore une goutte.
Non, Néron.
La barbe, Sénèque, laisse-nous travailler.
Ce poison est un des plus violents, production orientale.
Ah, et tu es sûr que la formule est exacte?
Néron.
Mais tais-toi donc, Sénèque. Ma mère est très résistante, toute la famille est résistante. Tu te souviens du jour où j'ai voulu empoisonner mon cousin? Tu t'en souviens?
J'ai expérimenté le poison sur un général, il est tombé raide mort.
Bon, Néron. Bon.
Néron.
Oh, je t'en prie, Sénèque. Ah, ciel! Qui est-ce? Oh, c'est toi. Oh, tu m'as fait peur, Poppée.
J'ai trouvé l'arsenic.
Gardons notre calme. Si elle arrive, nous sommes cuits, ratatinés. Par ici, l'arsenic.
Excuse-moi, Néron, j'ignore ce que tu prépares là. Une infusion ou un poison. Si c'est un poison, je te conseille de ne l'employer jamais contre ta propre mère.
Tu as raison, Sénèque.
Oui. Eh oui, malheureusement, tu le feras. Vas-tu faire bouillir la décoction?
Si je ferai bouillir la décoction, évidemment.
Ne la fais pas bouillir.
Ah, je la fais pas bouillir.
Comment tu la rends inefficace?
Mais c'est vrai, tu as raison, Sénèque. Regarde, elle est limpide, hein.
Agite-la.
Quoi?
Agite-la.
Agitez.
Alors pardon, Franck Collard, d'avoir illustré votre livre très sérieux avec ce péplum qu'il n'est pas du tout. Cela dit, je vous ai lu avant de sélectionner cet extrait de film et il y a pas mal de réalité. D'abord, effectivement, Néron est peut-être un des plus célèbres empoisonneurs de l'histoire. Un tyran toxique.
Un tyran toxique, oui, c'est l'image qui en a été dressée, en particulier par les historiens romains qui étaient chargés de défendre les dynasties ultérieures, les Flaviens ou les Antonins, et qui ont érigé ce prince en tyran, prêt à tout, et y compris alors à empoisonner sa famille, ses intimes, mais aussi à empoisonner, je dirais, le système politique romain, puisqu'il était censé aussi avoir voulu tuer par poison tous les sénateurs. Donc c'était quand même une marque d'une sorte de démesure toxique.
Il n'était pas seul. Vous rappelez que 8 des 12 Césars ont été mêlés à des affaires de poison. C'était vraiment une mode. Hein.
C'est une statistique terrible, oui.
Le vice congénital, dites-vous, du régime impérial, bon, sa mère elle-même avait empoisonné son mari Claude avec des champignons toxiques, ou en tout cas en répandant du poison. De quel poison parlait-on à l'époque? Quels étaient les poisons utilisés?
Contrairement à ce que dit l'archive, c'est pas tellement l'arsenic ou des poisons minéraux de cet ordre. Ce sont plutôt des poisons qui viennent du monde végétal ou des poisons animaux. Alors, il parle de crapaud, de venin de crapaud, mais l'aconite, par exemple, est beaucoup utilisée.
Alors, l'usage du poison va s'éclipser un petit peu au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'il ne cadre pas, évidemment, avec l'idéal chevaleresque. On préfère utiliser l'épée pour se débarrasser d'un rival que le poison.
Voilà. Et il ne correspond pas à l'exemple de la force par les monarques barbares, et puis à cette espèce d'éthique, si l'on peut dire, du bien tuer, l'éthique chevaleresque qui consiste à tuer son adversaire en face à face avec des armes loyales.
Il y a des empoisonnements quand même à la table ronde.
Bien sûr, il y a quand même des empoisonnements. Dans les romans de chevalerie, dans les épopées, il y a des empoisonnements qui ont pour but en particulier de mettre à l'épreuve celui qui en est faussement accusé. Hein, la reine Guenièvre, comme ça, a été accusée d'avoir donné une pomme empoisonnée, et donc il y a un champion qui intervient pour la défendre et qui gagne. Donc c'est une sorte de mise à l'épreuve.
Le poison était plutôt réservé, vous le rappelez aussi, Franck Collard, à ceux qui ne portaient pas les armes, parce qu'ils ne le pouvaient pas. C'était soit les ecclésiastiques ou encore les femmes, comme Mao d'Artois, qui voulait se débarrasser du roi de France, Louis X le Hutin.
Je prie Dieu de l'aube au soir et du soir au matin pour qu'il se rompe le col à cheval ou s'étouffe avec une noix sèche et rien n'arrive.
Ce ne serait pas grand péché de l'envoyer en enfer par nourriture convenablement préparée.
Empoisonner le roi? Mais tu n'as pas ta raison, il est aussi craintif que méchant. Il fait goûter trois fois les mets qui lui sont servis et que deux écuyers en armes transportent du four à la table.
Il communie souvent, m'a-t-on dit. Et personne ne goûte l'hostie avant lui.
Pas l'hostie.
Dommage. Ne m'avez-vous pas dit que le roi aimait à croquer des dragées?
Il en perdra toutes ses dents.
Et ne vous êtes-vous pas plainte l'autre jour de ce que les cerfs infestaient vos bois de conflans et mangeaient vos jeunes arbres? La dame de Ferrienne, chez qui je me fournis, ne refuserait pas de donner du poison pour y tremper les flèches destinées aux cerfs. Et il en faut si peu pour une dragée.
Alors, le roi de France, Louis X, est mort si jeune, après 2 ans de règne, même pas 16 mois de règne, c'est le roi qui a régné le plus brièvement sur la France, qu'on a soupçonné Mao d'Artois de l'avoir empoisonné. Quel était l'intérêt de cette femme?
Mais l'intérêt de Mao d'Artois, c'est qu'elle était la belle-mère du frère cadet de Louis X, qui va devenir Philippe V le Long, et qu'en faisant disparaître le frère aîné, eh bien, le gendre Mao d'Artois, Philippe V, arrivait sur le trône. Hein. Et un procès a été intenté à Mao, un procès en Parlement, hein, ça n'est pas resté dans le domaine de la simple rumeur. Il y a eu un procès, des témoins qu'on a fait venir, qui rapportent ce que l'on a entendu dans l'archive, c'est-à-dire l'utilisation de poison de flèche. Hein. En revanche, on prête à Mao des scrupules que je ne suis pas sûr qu'elle ait eu, en refusant d'utiliser l'hostie, alors que l'empoisonnement par la voie des saintes espèces se faisait. Hein. Il y a eu une affaire dans l'église au milieu du XIIIe siècle. Et puis finalement, elle a pu démontrer que ses accusateurs étaient de viles personnes, des personnes infâmes, dont le témoignage ne valait rien, et que surtout, il devait être manipulé par son fameux neveu Robert d'Artois, qui avait, lui, tout intérêt à ce que sa tante finisse en prison ou en exil.
Si on la soupçonne, c'est parce que c'est une femme. Vous rappelez, effectivement, que la plupart des empoisonneurs sont en fait des empoisonneuses, et on le voit, l'empoisonnement, dites-vous, se conjugue presque toujours au féminin. Depuis, d'ailleurs, le premier d'entre eux, voilà. C'est-à-dire Ève.
Depuis Ève, exactement. Alors, c'est très, très visible, surtout à partir du moment où l'Europe est devenue chrétienne. Et dans la première empoisonneuse de l'histoire, c'est Ève qui fait croquer la pomme à Adam. Et puis ensuite...
Il y a Médée, il y a aussi la mythologie.
Il y a Médée, il y a la mythologie, mais ça sert au clerc du Moyen-Âge pour expliquer toute la venimosité, y compris morale, de la femme. Et les médecins, les philosophes naturels reprennent la chose en expliquant que le sang menstruel, par exemple, d'une femme est toxique, et ça entre dans les compositions de poisons criminels tels qu'on les voit au début du XIVe siècle.
Alors là, il s'agit la plupart du temps de fantasmes. Ce qui n'en est pas un, c'est que l'autre catégorie, non pas soupçonnée, mais qui a réellement employé le poison, qui ne portait pas non plus les armes, c'était les ecclésiastiques. Alors là, on voit qu'au Vatican, au Moyen-Âge, c'était extrêmement répandu. Vous rappelez que sur 49 papes, entre 1276 et 1590, 19 ont été tués, par le poison, seraient morts empoisonnés.
Oui, et encore, je commence ma statistique au XIIIe siècle, mais on pourrait reculer jusqu'à la fin du IXe siècle. C'est à ce moment-là qu'on voit, au moment de la papesse Jeanne, enfin, ou à peu près, on commence à voir du poison dans l'entourage des papes, et ensuite il y a des vagues de rumeurs d'empoisonnement. Par exemple, au moment de la réforme grégorienne, dans les luttes entre l'empereur et le pape, l'empereur essaye de faire passer le pape Grégoire VII, qui a donné son nom à la réforme grégorienne, lui aussi pour un tyran toxique qui, pour arriver sur le trône de Saint-Pierre, a éliminé tous les cardinaux ou tous ses prédécesseurs. Et ensuite, effectivement, la réputation toxique des papes atteint son apogée, son paroxysme avec Alexandre VI Borgia.
Oui, parce qu'on le soupçonnait d'avoir éliminé, enfin avec l'aide de son fils, parce qu'en plus il avait un fils,
éliminé... Et une fille aussi, d'avoir éliminé tous les gens qui le gênaient.
Avec des hosties.
Avec des hosties, et puis d'avoir péri finalement de ses propres turpitudes, puisque pour avoir confondu un flacon qui était destiné à un cardinal chez lequel il venait en visite, et l'avoir bu, alors que c'est le cardinal qui aurait dû le boire, il aurait péri en 1503, dans des conditions abominables.
L'usage d'ailleurs du poison était tellement important... tout au long des âges d'ailleurs, que vous insistez aussi sur les antidotes. On les vendait, on les trouvait aussi facilement qu'on trouvait du poison chez les vendeurs. Vous parlez de la thériaque, c'était quoi?
Oui, de la thériaque. C'était une sorte de médicament composé dont l'inventeur était considéré comme étant Mithridate, le fameux roi du Pont au 1er siècle.
Qui s'était prémuni contre le poison en absorbant de temps en
voilà.
temps.
Voilà, et du coup,
il était mithridatisé.
Et qui n'avait pas pu du coup se suicider par le poison, c'est ça le problème. Et puis ensuite, toute une série d'éléments sont venus s'ajouter. Et dans cette grande teriyaki, il pouvait entrer jusqu'à 60 ou 70 ingrédients. Et elle n'était pas si accessible que ça, parce qu'il y avait des produits qui venaient de loin, et ça n'était pas possible pour tout un chacun d'avoir de la teriyaki. C'était plutôt un remède qui était donné aux grands pour se prémunir de l'empoisonnement.
Et puis pas toujours très bon marché, il y a la corne de licorne.
Oui, alors ça, la corne de licorne, c'est lié à une légende biblique qui veut que cet animal fantastique, de sa corne, ait purifié une mare d'eau empoisonnée, comme le Christ qui avait racheté les péchés. Hein. Et la corne de licorne, qui provenait en réalité de cornes de narval ou de cornes d'oryx, était...
Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval,
non,
ça coûtait très cher.
Non, c'est le cas de le dire, on pouvait ça souvent en Orient, mais il y avait des cornes qui, si je puis dire, étaient frelatées, enfin qui venaient d'animaux beaucoup plus communs, et qui étaient vendues très très cher, et qui entraient surtout dans le trésor des princes. C'était un signe aussi de puissance que d'avoir, dit-on, des cornes entières. Et par exemple, dans l'inventaire de l'abbaye de Saint-Denis au début du XVIe siècle, le texte nous dit qu'il y avait une énorme corne de licorne qui ne semblait pas avoir beaucoup servi parce qu'elle était laissée là dans un coin. Et Charles IX croyait encore aux vertus de la corne de licorne, et il a fallu qu'Ambroise Paré, le fameux chirurgien, lui dise « faites très attention » parce qu'en réalité, c'est purement mythique. Cette corne n'a jamais sauvé personne.
Alors, on fait évidemment, surtout quand on est impuissant, très attention à ce qu'on mange. On le fait goûter par des serviteurs dévoués. Il y a d'ailleurs une méthode qui permet d'éviter la méfiance, c'est d'utiliser un couteau avec du poison sur une seule lame. Si bien que quand on coupe, on évidemment donne le morceau du côté de la lame empoisonnée à l'invité. Entre
et là, et on retrouve les contes de notre enfance, Blanche-Neige, évidemment. Il y a aussi une espèce de lecture structuraliste de ces crimes de poison. Hein. C'est toujours les mêmes schémas que l'on rencontre. Ce qu'on appelait dans l'Antiquité romaine les pregustatores, on les voit apparaître comme par hasard avec les Julio-Claudiens vers 40 de notre ère. Et puis ensuite, dans les cours européennes ou à la cour pontificale, il y a des rituels extrêmement détaillés de dégustation ou de pré-égustation des plats qui sont censés protéger le prince. Et puis surtout, il y a une tentative de mettre le prince à l'écart quand il mange. C'est le mettre en majesté, mais c'est l'isoler aussi. On raconte que le seigneur de Milan, Visconti, à la fin du XIVe siècle, faisait goûter ses plats par 20 goûteurs et mangeait toujours seul pour éviter les accidents.
Alors, il y a une chose qui est presque pire que l'emploi du poison pour se débarrasser d'un adversaire, c'est l'emploi de la rumeur du poison. C'est faire croire qu'une communauté, par exemple, c'était le cas des juifs, c'était le cas des musulmans, était responsable d'empoisonnement collectif.
D'empoisonnement massif. Et c'est une des autres dimensions du livre. C'est l'intoxication, si on peut prendre ce jeu de mots, de l'opinion publique, hein, en discourant sur l'utilisation réelle ou supposée, et en général imaginaire, de poison, soit par des individus qu'on veut éliminer, soit par des communautés qu'on veut rejeter. Et il y a un célèbre cas en 1321, on pense que une autre communauté rejetée qui était les lépreux, on pense que les lépreux veulent empoisonner les puits du royaume de France pour que le royaume de France passe aux mains des juifs et des sultans, en particulier du sultan de Grenade.
Bref, on voit des poisons et des empoisonneurs partout jusqu'au sommet du pouvoir lorsque se déclenche en France la célèbre affaire des poisons qui en 1676 avait visé la maîtresse de Louis XIV.
Saviez-vous, madame, que madame de Montespan elle-même s'est prêtée aux cérémonies les plus étranges pour obtenir la place où elle se trouve? Pourriez-vous me jurer qu'elle n'en est pas capable?
Il est vrai que madame de Montespan a toujours aimé s'entourer d'astrologues.
Il s'agit bien d'astrologues, madame, mais de sacrilèges et d'empoisonneurs. On accuse votre madame de Montespan d'avoir donné à mademoiselle de Fontange des gants empoisonnés qui l'ont tuée. Et elle n'aurait pas été mécontente, à ce qu'il paraît, de m'expédier aussi.
Cela ne se peut.
Peut-être que cela ne se peut, mais cela se dit. Pensez-vous qu'il soit plaisant de songer que je buvais chez elle, avec le vin qu'on m'y servait, de la poudre de crapaud, des rognures d'ongles et de la semence de curé, qui de surcroît m'occasionnait des maux de tête affreux?
Alors l'affaire des poisons, c'est peut-être la plus célèbre de toute cette histoire du poison que vous racontez depuis l'Antiquité, Franck Collard. Hein, il faut rappeler peut-être les circonstances rapidement, c'est une marquise, la marquise de Brinvilliers.
C'est ça, oui, qui avait des relations un peu louches avec les milieux underground parisiens et qui fournissait une partie de personnalité de la cour. Alors au départ en filtre d'amour pour aider à reconquérir le cœur du roi par exemple, mais des filtres d'amour mal dosés, ça peut donner des poisons mortels. Et donc c'est un vaste scandale. les enjeux ne sont pas des enjeux vraiment de pouvoir, ce sont des enjeux moraux. C'est de savoir qu'à la cour du roi très chrétien, on utilise des armes, on l'a entendu dans l'archive, qui frisent le sacrilège. Mmh. Parce qu'entre empoisonnement et magie, il y a des liens depuis pratiquement toujours.
Alors ça a ébranlé le règne de Louis XIV. Après quoi, d'ailleurs, il y a relativement peu, au XVIIIe siècle, d'affaires de poison. Vous citez Marie-Antoinette en 1790 qui dit à un moment donné « Les Brinvilliers ne sont pas de ce siècle-ci. On a la calomnie qui vaut beaucoup mieux pour tuer les gens. » Et c'est par elle qu'on me fera périr. C'est assez bien vu d'ailleurs, parce que c'est un peu ça aussi. Mais c'est vrai qu'on l'utilise de moins en moins. C'est on va l'utiliser de moins en moins pendant la Révolution et tout au long du XIXe siècle, Francola.
Oui, absolument. Pendant la Révolution, je crois que lorsqu'il s'agit d'éliminer un adversaire, on le fait au grand jour sur le modèle de Brutus qui tue César. C'est pour montrer qu'on répand le sang pour défendre la liberté. Il y a simplement une association qui est souvent faite entre précisément l'utilisation du poison et la tyrannie, la monarchie, la réaction. Hein, ce que l'on peut voir en particulier à propos de Napoléon.
Oui, il y a des rumeurs d'empoisonnement.
Des rumeurs d'empoisonnement très insistantes hein, qui prétendent qu'il a été éliminé par les Bourbons, en l'occurrence par Louis XVIII avec l'aide des Anglais. Parce que comme Alexandre, un héros invincible ne peut être éliminé que d'une manière insidieuse et anti-chevaleresque.
Mais après lui, après la restauration, le régime de Louis-Philippe, on est en République, Napoléon III aussi, on l'a soupçonné. Oui. Au fond, il y a un lien, on y revient, entre un régime républicain et démocratique, où il ne sert pas à grand-chose de tuer un homme qu'on va remplacer par l'élection, que dans les régimes monarchiques, c'est la République qui a fait disparaître, entre guillemets, l'empoisonnement.
Sans doute. Et dans la République, alors je sais bien qu'aujourd'hui, il peut y avoir des phénomènes de cour, mais dans les monarchies, bien davantage, avec des intrigues, des rumeurs, des secrets, et donc pas de transparence politique comme on peut en avoir en République. Et l'opacité est liée, évidemment, au poison, qui est toujours un crime caché d'une manière ou d'une autre.
L'empoisonnement, alors il existe, il subsiste, mais dans des affaires privées dont vous ne parlez pas, c'est pas l'objet de votre livre, hein, mais les grandes empoisonneuses ou les grands empoisonneurs du XVIIIe ou du XIXe siècle, eh bien, ce n'est plus de l'empoisonnement politique, sauf dans des régimes autoritaires comme en Russie, où en 1921, Lénine avait créé un laboratoire des poisons dont on dit qu'il servait encore dans la Russie d'aujourd'hui, ce qu'affirmait en tout cas un Russe, Alexandre Litvinenko, avant d'être lui-même empoisonné à Londres il y a un peu plus d'un an, France Inter, le 20 novembre 2006.
Intersoir. Alain Passerelle.
L'affaire Litvinenko tourne plus que jamais au roman d'espionnage. Derniers épisodes, une jeune universitaire russe qui affirme que l'ex-agent secret envisageait de faire chanter un oligarque proche du Kremlin. À Moscou, l'audition d'un témoin clé. Et à Londres, le contact de l'ancien espion qui souffre finalement d'un empoisonnement aigu par le fameux polonium-210.
Scotland Yard passe désormais au peigne fin l'hôtel Millennium et surtout son bar qui pourrait bien être le lieu du crime. Les médias affirment en effet savoir de sources policières que les niveaux de radiation y sont extrêmement élevés. Des trois Russes qui s'y sont rencontrés le 1er novembre, Alexandre Litvinenko est mort. Andrei Lugovoy, également ex-agent des services spéciaux russes, a semé partout où il est passé des traces de polonium. Et l'une de ses relations d'affaires, Dimitri Kovtoun, a lui aussi été contaminé. L'agence de presse russe Interfax a en effet annoncé qu'il souffrait d'un empoisonnement aigu par radiation et était dans un état critique, ce qui a été démenti plus tard. Scotland Yard s'intéresse donc de très près aux déplacements de Kovtoun et Lugovoy qui sont venus à Londres à trois reprises en octobre. Londres, Muriel Delcroix, RFI pour France Inter.
Alors l'empoisonnement politique a peut-être disparu de beaucoup de pays, mais très actuel en Russie. Il y a Litvinenko qui est mort, on s'en souvient, il y a peu de temps. Il y a Anna Politkovskaya qui, avant d'être tuée d'une autre manière, a été victime d'une tentative d'empoisonnement.
En avion,
boire une boisson. Anatoly Sobchak aussi en 2000, dont on se demande comment il a disparu, un crime bizarre. Est-ce que c'est vrai que ce fameux laboratoire des poisons créé par Lénine en 1921 existerait encore aujourd'hui?
C'est ce que disent les détracteurs, évidemment, de Vladimir Poutine, pour montrer que c'est un nouveau tsar rouge, et donc pour faire l'association entre son autoritarisme et puis des manières qui ne sont pas dignes d'un pays démocratique. Mais là, on retombe dans l'instrumentalisation du discours, de l'accusation d'empoisonnement, qui ne sont jamais lancées au hasard ni gratuitement.
Mais vous dites soupçon ou rumeur, ça a bien existé quand même à l'époque du régime oui. communiste.
Le laboratoire des poisons, oui, il y a des archives, on connaît le nom de son directeur, on connaît des produits extrêmement toxiques qui étaient fabriqués, et puis on sait aussi que des ordres étaient donnés en haut lieu pour aller éliminer soit des ennemis de l'intérieur, soit ce qui était plus terrible, des Russes blancs qui s'étaient réfugiés en Europe occidentale ou même assez loin, et qui se croyaient à l'abri de tout et qui, en rencontrant un agent secret soviétique, était tué, comme Anna Politkovskaya a failli l'être, en buvant du thé.
Il y a aussi cette rumeur lancée par Staline, et là on retrouve encore tous les ingrédients, si je puis dire, de votre histoire des poisons, contre des médecins juifs. Il y a eu le fameux complot des blouses blanches au début
des
années 50.
Des blouses blanches, oui, qui éclate dans sa phase terminale en 1953, et alors qui réutilise, ça c'est très, très intéressant, tous ces schémas de stigmatisation, d'accusation, de communautés qui sont liées d'une manière ou d'une autre à la toxicité, et qui avaient pour but de montrer que les juifs devaient être totalement éradiqués, éliminés de l'appareil d'État, déportés, voire même que des pogroms se déclenchent contre les pharmacies, contre les magasins juifs. Oui, c'est un exemple justement de permanence de l'histoire qui est très intéressant.
En tout cas, qui a été heureusement ce complot qui n'a plus eu lieu d'être après la mort de Staline en 1953. Il n'y a pas que dans les régimes totalitaires ou communistes. Vous rappelez aussi que, par exemple, quelque chose aussi obscur que la CIA a tenté d'empoisonner Castro par le poison, justement, avec ses cigares notamment.
C'est ça, oui. Mais autant de la présidence impériale, autant des tentatives d'endiguement contre le communisme. Il y a des documents déclassifiés de la CIA, qui sont tout à fait accessibles, qui montrent les multiples tentatives de faire tomber le poil de la barbe de Castro, parce qu'on pensait que son charisme résidait là, de le faire bafouiller en public après lui avoir donné quelque chose de mauvais, et même de lui payer une tunique de plongée sous-marine, une sorte de tunique de Nessus, qui aurait été empoisonnée de l'intérieur et qui lui aurait occasionné des démangeaisons, une défiguration, pour que son lien spécial avec le peuple soit rompu.
Il y a aussi l'emploi de la rumeur, ça c'est assez fréquent et on s'en souvient bien, de tentatives de guerre bactériologique lancées par Saddam Hussein, alors que c'était totalement inventé, on le sait bien, donc on a essayé de discréditer Saddam Hussein, ce qui donnait le prétexte de l'intervention en Irak. Et ça c'était la guerre bactériologique, c'était quelque chose auquel pensaient déjà les Vénitiens il y a des années.
Bien sûr. C'est comme ça que la peste, vous savez bien, est arrivée en Occident, en catapultant le cadavre d'un pestiféré dans le camp des Génois. Mais c'est très intéressant parce que ça nous ramène à ce fantasme là encore de l'utilisation de l'arme interdite qu'on trouve aussi durant la guerre de 14-18 avec la fameuse guerre des gaz. Ouais.
Si l'on vous croit, bref, Franck Collard, le poison a encore un bel avenir devant lui.
Ça n'est pas un souhait, mais c'est une crainte, effectivement. Je pense que dans les régimes autoritaires qui se raidissent, le poison a un bel avenir. Et je lisais récemment que dans la famille malheureuse de Benazir Buteau, un frère de Benazir Buteau a été empoisonné à Cannes il n'y a pas très très longtemps. Donc, on pourra encore dire que c'est une arme qui vient d'Orient. En Orient servent de tels breuvages, comme disait Eustache Deschamps à la fin du XIVe siècle.
Pouvoir et poison, histoire d'un crime politique de l'Antiquité à nos jours. C'est le titre de votre livre, Franck Collard, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous avez également écrit Crime de poison au Moyen-Âge, publié en 2003 aux Presses universitaires de France. Et puis entendre des extraits des films suivants, Les Week-ends de Néron, de Stefano Steno, Les Rois Maudits de Claude Burma chez TF1 Vidéo et L'Allée du Roi de Nina Companèse, édité par France 2 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Antoine Viossa, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.